Saint François d'Assise, règle des frères mineurs, 1223. Chapitre 1. Au nom du Seigneur commence la vie des frères mineurs. La règle et la vie des frères mineurs est celle-ci, à savoir observer le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, vivant en obéissance, sans propre et en chasteté. Frère François promet obéissance et référence au Seigneur Pape Honorius et à ses successeurs canoniquement élus, et à l'Église romaine, et que les autres frères soient tenus d'obéir au frère François et à ses successeurs. Chapitre 2. De ceux qui veulent embrasser cette vie et comment ils doivent être reçus. S'il en est qui veulent embrasser cette vie et viennent à nos frères, que ceux-ci les envoient à leurs ministres provinciaux, auxquels seulement, et non à d'autres, soit accordé le pouvoir de recevoir des frères. Mais que les ministres les examinent avec soin sur la foi catholique et sur les sacrements de l'Église. Et s'ils croient toutes ces choses, et s'ils veulent les professer fidèlement et les observer jusqu'à la fin, et s'ils ne sont pas mariés, ou s'ils le sont et que leur femme soit déjà entrée dans un monastère, ou qu'elle leur ait donné la permission avec l'autorisation de l'évêque diocésain, après avoir fait elle-même le vœu de continence, et que ces femmes soient de tel âge qu'elles ne puissent causer de soupçons, alors que les ministres leur disent la parole du Saint-Évangile, qu'ils aillent, qu'ils vendent tout leur bien, et tâchent de le distribuer aux pauvres. Que s'ils ne le peuvent faire, la bonne volonté leur suffit, et que les frères et leurs ministres se gardent d'avoir souci de ces biens temporels, afin qu'ils en fassent librement ce que le Seigneur leur inspirera. Cependant, si un conseil est demandé, que les ministres aient la liberté de les envoyer à des hommes craignant Dieu, et d'après l'avis de ces derniers, que les biens soient distribués aux pauvres. Ensuite, qu'on leur accorde l'habit de probation, à savoir deux tuniques sans capus, la corde, les brais, et le caperon jusqu'à la corde, si ce n'est parfois que les mêmes ministres en jugent autrement selon Dieu. L'année de probation étant finie, qu'ils soient reçus à l'obéissance, promettant d'observer toujours cette vie et cette règle. Et en aucune façon, il ne leur sera permis de sortir de cette religion, suivant le commandement du Seigneur Pape. Parce que d'après le Saint-Évangile, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas apte au royaume de Dieu. Et que ceux qui ont déjà promis obéissance aient une tunique avec capus, et s'ils veulent, une autre sans capus. Et que ceux qui sont forcés par la nécessité puissent porter des chaussures. Et que tous les frères soient vêtus d'habits pauvres et vils, et qu'ils puissent les rapiécer de sacs et autres pièces, avec la bénédiction de Dieu. Je les avertis, je les exhorte à ne pas mépriser ni juger les hommes qu'ils voient se vêtir d'habits fins et éclatants, et usés d'aliments et de breuvages délicats. Mais plutôt que chacun se juge et se méprise soi-même. Chapitre 3. De l'office divin, du jeûne, et comment les frères doivent aller par le monde. Que les clercs récitent l'office divin suivant l'usage de la Sainte Église romaine, excepté le psautier, dès qu'ils pourront avoir des bréviaires. Que les frères laïcs disent 24 paternostères pour matine, pour laude 5, pour prime, tierce, sexte et nonne, pour chacune de ces heures 7. Pour vêpres, 12, pour complis, 7, et qu'ils prient pour les trépassés, et qu'ils jeûnent depuis la fête de tous les saints jusqu'à la nativité du Seigneur. Quant au saint carême qui commence à l'épiphanie pour se prolonger pendant 40 jours, et qui fut consacré par le saint jeûne du Seigneur, que ceux qui l'observent volontairement soient bénis du Seigneur, et que ceux qui ne veulent pas n'y soient pas astreints. Mais pendant l'autre carême, jusqu'à la résurrection du Seigneur, qu'ils jeûnent. En d'autres temps, qu'ils ne soient pas tenus de jeûner sinon le vendredi. Toutefois, en cas de manifeste nécessité, que les frères ne soient pas tenus au jeûne corporel. Je le conseille, j'avertis et j'exhorte mes frères dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils vont par le monde, qu'ils évitent les disputes, les discussions de paroles, qu'ils ne jugent pas les autres, mais qu'ils soient doux, pacifiques, modestes, pleins de mansuétude et d'humilité, parlant honnêtement à tous comme il convient. Et qu'ils ne puissent aller à cheval, si ce n'est dans l'obligation d'une manifeste nécessité ou par infirmité. Dans toute maison où ils entreront, qu'ils disent d'abord « La paix soit en cette maison », et conformément au Saint-Évangile, qu'ils puissent manger de tous les aliments qui leur sont présentés. Chapitre 4. Que les frères ne reçoivent point de pécune. Je commande fermement à tous les frères, de ne recevoir en aucune manière deniers ou pécunes par eux-mêmes ou par personne interposée. Cependant, pour la nécessité des malades et pour vêtir les autres frères, que les ministres seulement et les custodes à l'aide d'amis spirituels en aient grand soin selon les lieux, les temps et les froides régions comme il leur paraîtra nécessaire. Ceci, toujours exempté comme il a été dit, qu'ils ne reçoivent ni deniers ni pécunes. Chapitre 5. De la manière de travailler. Que les frères à qui le Seigneur a donné la grâce de travailler travaillent fidèlement et dévotement, de telle sorte que chassant l'oisiveté, ennemi de l'âme, ils n'éteignent pas l'esprit de sainte oraison et de dévotion auxquels doivent servir les autres choses temporelles. Et que du salaire de leur travail, ils reçoivent pour eux et pour leurs frères les choses nécessaires au corps, excepté deniers ou pécunes, et ce humblement, comme il convient aux serviteurs de Dieu et aux disciples de la très sainte pauvreté. Chapitre 6. Que les frères ne s'approprient rien de la quête, de l'aumône et des frères malades. Que les frères ne s'approprient rien, ni maison, ni lieu, ni aucune chose. Et comme pèlerins et étrangers en ce siècle, servant le Seigneur dans la pauvreté et l'humilité, qu'ils aillent avec confiance demander l'aumône. Et ils ne doivent pas en rougir, car le Seigneur s'est fait pauvre pour nous en ce monde. C'est là l'excellence de la très haute pauvreté qui vous a institué, mes très chers frères, héritier et roi du royaume des cieux, vous a fait pauvre de bien et vous a élevé en vertu. Qu'elle soit votre héritage, elle qui conduit à la terre des vivants. Attachez-vous-y totalement, bien-aimés frères, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ne désirez jamais posséder autre chose sous le ciel. Et en quelque autre lieu que soit et se rencontrent les frères, qu'ils se montrent serviteurs les uns envers les autres, et qu'avec assurance ils se manifestent réciproquement leurs nécessités, car, si une mère nourrit et aime son fils selon la chair, avec combien plus d'affection chacun doit-il aimer et nourrir son frère selon l'esprit. Et si l'un d'eux tombe en maladie, les autres frères doivent le servir comme ils voudraient être servis. Chapitre 7. De la pénitence à imposer aux frères tombés dans le péché. Si quelques frères, à l'instigation de l'ennemi, commettent de ces péchés mortels pour lesquels les frères auront statué qu'on recourt aux seuls ministres provinciaux, que ces frères soient tenus de recourir à eux le plus tôt qu'ils pourront, sans retard, mais que les ministres eux-mêmes, s'ils sont prêtres, leur imposent la pénitence avec miséricorde, et s'ils ne sont pas prêtres, qu'ils la fassent imposer par d'autres prêtres de l'ordre comme il leur paraîtra plus expédient devant Dieu. Et ils doivent éviter de s'irriter et de se troubler pour le péché d'aucun frère, parce que la colère et le trouble empêchent en soi et dans les autres la charité. Chapitre 8. De l'élection du ministre général, de cette fraternité et du chapitre de la Pentecôte. Que tous les frères soient toujours tenus d'avoir un des membres de cette fraternité comme ministre général et serviteur de toute la fraternité et qu'ils soient absolument tenus de lui obéir. À sa mort, que l'élection du successeur soit faite par les ministres provinciaux et les custodes au chapitre de la Pentecôte, auxquels les ministres provinciaux soient toujours tenus de s'assembler en quelque lieu qu'aura fixé le ministre général, et cela, une fois tous les 3 ans, ou plus ou moins souvent, selon qu'il aura été statué par ce même ministre. Et si en quelque temps, l'universalité des ministres provinciaux et des custodes jugeait que ce ministre ne suffit pas au service et à l'utilité commune des frères, que les ministres et custodes, à qui l'élection appartient, soient tenus, au nom du Seigneur, de s'en élire un autre pour custode. Après le chapitre de la Pentecôte, que les ministres et les custodes, s'ils le veulent et le jugent utile, puissent chacun, dans leur custodie, convoquer une fois leurs frères en chapitre. Chapitre 9. Des prédicateurs. Note du traducteur. Saint François hésita sur sa vocation au commencement de sa vie. Devait-il prêcher? Devait-il mener la pure vie contemplative? Saint Bonaventure lui fait tenir à ce propos un discours dont Vading a fait sa conférence 14e. Fin de note. Que les frères ne prêchent dans l'évêché d'aucun évêque quand ce dernier s'y opposera. Et que nul des frères n'ose en aucune façon prêcher au peuple s'il n'a été examiné et approuvé par le ministre général de cette fraternité et s'il n'a reçu de lui l'office de la prédication. J'avertis aussi, et j'exhorte les mêmes frères à ce que dans la prédication qu'ils font, leurs paroles soient examinées et chastes, pour l'utilité et l'éducation du peuple, lui annonçant les vices et les vertus, la peine et la gloire, ne prêchant pas longuement, parce que le Seigneur a fait le Verbe abrégé sur la terre. Chapitre 10. De l'admonition et correction des frères. Que les frères qui sont ministres et serviteurs des autres frères visitent et avertissent leurs frères et les corrigent avec humilité et charité, et ne leur commandent rien qui soit contre leur âme et notre règle. Mais que les frères qui sont sujets se souviennent que pour Dieu, ils ont renoncé à leur propre volonté. Aussi, je leur commande fermement d'obéir à leurs ministres en tout ce qu'ils ont promis au Seigneur d'observer, et qui ne sera pas contraire à l'âme et à notre règle. Et en quelque lieu qu'il y ait des frères qui voient et reconnaissent leur impossibilité d'observer la règle dans tout son esprit, qu'ils doivent et puissent recourir à leurs ministres, et que les ministres les reçoivent avec charité et bienveillance, et montrent une si grande familiarité à leur égard, que ces frères puissent parler et agir avec eux comme des maîtres avec leurs serviteurs. Car ainsi doit être que les ministres soient les serviteurs de tous les frères. En outre, j'avertis les frères, je les exhorte dans le Seigneur Jésus-Christ, de se préserver de tout orgueil, de la vaine gloire, de l'envie, de l'avarice, des soins et des sollicitudes de ce siècle, de la médisance et de la calomnie. Et que ceux qui ne savent pas les lettres ne se soucient pas de les apprendre, mais qu'ils considèrent que par-dessus toute chose, ils doivent désirer de posséder l'Esprit du Seigneur et ses œuvres saintes, de prier Dieu avec un cœur pur, d'avoir l'humilité et la patience dans la persécution et l'infirmité, et d'aimer ceux qui nous persécutent, nous reprennent et nous blâment. Car dit le Seigneur, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent et calomnient. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Chapitre 11. Que les frères n'entrent pas dans les monastères de religieuses. Je commande fermement à tous les frères de ne pas avoir de rapport ou de conseils suspects avec les femmes, et de ne pas entrer dans les monastères de religieuses, excepté ceux qui ont reçu permission spéciale du siège apostolique, et qu'ils ne se fassent pas compères d'hommes ou de femmes, de peur que, par cette occasion, le scandale ne naisse parmi les frères et au sujet des frères. Chapitre 12. De ceux qui vont chez les Sarrasins et autres infidèles. Que tous les frères qui voudraient aller chez les Sarrasins et autres infidèles en demandent la permission à leurs ministres provinciaux, et que les ministres n'accordent la permission de partir qu'à ceux qui leur paraîtront capables d'être envoyés. En outre, j'ordonne par obéissance aux ministres de demander au Seigneur le Pape, un des cardinaux de la Sainte Église romaine, pour gouverneur, protecteur et correcteur de cette fraternité, afin que, toujours soumis et assujettis aux pieds de cette même Sainte Église, stable en la foi catholique, nous observions la pauvreté, l'humilité et le Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons fermement promis.